Le journal Pierre Veil. Bonjour Pierre.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Des vacances apprenantes, c'est le dispositif lancé par le ministère de l'Éducation pour 1 million d'élèves pendant l'été. Objectif, rattraper le retard accumulé à cause de la fermeture des écoles pendant le confinement. Détail avec Hélène Philly. La justice ouvre une enquête sur des centaines de messages racistes publiés par des policiers sur les réseaux sociaux. C'est un problème pour tous ceux qui aiment la République, dit Jean-Luc Mélenchon. Nous écouterons le chef de la France insoumise. Est-ce un phénomène courant, ce racisme dans la police ou la dérive de quelques-uns? Nous interrogerons en direct Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat de policiers Unité SGP-FO. Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique tué au Mali par l'armée française, opération avec hélicoptères et troupes au sol et des renseignements fournis par les États-Unis. En ce 6 juin, les commémorations du débarquement célébrées quasiment à huis clos, conséquence de la crise sanitaire du Covid-19, reportage dans le cimetière de Colleville-sur-Mer.
France Inter.
Le 4 juillet prochain, ce sera la fin de l'année scolaire, une année fortement perturbée par la crise du Covid-19, avec la fermeture des écoles, puis une reprise des cours qui n'a pas été possible pour de nombreux élèves. Alors comment rattraper une partie de ce qui n'a pas pu être fait ces derniers mois? Hélène Philly, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement a présenté ce matin un nouveau dispositif, des vacances apprenantes pour 1 million d'élèves avec un budget de 200 millions d'euros. Comment vont fonctionner ces vacances apprenantes, Hélène?
Ça va se décliner en plusieurs choses. Les écoles ouvertes d'abord, renforcement scolaire le matin, activité l'après-midi. 400 000 élèves en bénéficieront contre 70 000 aujourd'hui. Il y aura les écoles ouvertes buissonnières pour 50 000 jeunes qui pourront quitter leur établissement pour une école à la mer ou à la campagne. 300 000 places en centre de loisirs sont financées par l'État, gratuites pour les plus modestes. Et 250 000 places en colonies de vacances avec une priorité précise le ministre Julien de Normandie.
On s'est fixé un objectif très ambitieux, c'est que 200 000 viennent des quartiers prioritaires de la ville. Parce que dans ces quartiers, le confinement a été particulièrement difficile. Parce que dans ces quartiers, parfois, le soutien, la continuité éducative, comme on l'appelle, elle est plus compliquée.
Et quand on dit colonie apprenante, on dit évidemment vacances. Chaque année, 3 millions d'enfants en sont privés, mais on dit aussi suivi pédagogique pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
C'est un des enjeux que d'avoir des éléments de rattrapage scolaire. Alors, on développe des modules de soutien scolaire gratuits, notamment la dernière semaine d'août, pour que des élèves puissent se roder avant la rentrée scolaire et rattraper éventuellement des choses. Et puis, d'autre part, nous développons aussi des contenus éducatifs dans les colonies de vacances ou dans le dispositif école ouverte pour que, par exemple, les enfants aient des apprentissages en français, en mathématiques, mais aussi en langue.
Et pour ce rattrapage pédagogique, le ministère de l'Éducation compte sur la mobilisation de 25 000 personnels encadrants. C'est 5 fois plus qu'aujourd'hui.
Hélène Philly, une plateforme ouvrira vendredi prochain sur le site du ministère. Elle permettra aux familles de voir ce qui est proposé près de chez elles et aux communes d'inscrire des groupes. Par ailleurs, 250 000 familles de travailleurs en première ligne recevront 300 euros en chèque vacances. L'épidémie de coronavirus semble sous contrôle. Les gestes barrières restent indispensables. Mais on peut se déplacer dans toute la France. Fini la limite des 100 km. Bien sûr, cela signifie que l'on peut préparer ses vacances dans l'Hexagone. Les réservations marchent bien, notamment dans le sud-ouest. Comme l'explique Michel Durieux, le directeur général du comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, avec Julien Langlais.
C'est plus qu'un frémissement. Les gîtes de France et les résidences privées ont très fortement augmenté. Les familles ont envie de se retrouver dans des lieux touristiques et des lieux où ils peuvent profiter ensemble. Donc oui, ça a redémarré. Et les réservations sur cet été, et on va dire à partir du 15 juin, mais surtout à partir du 21 juin, quand les vacances vont commencer, là, on a de très fortes réservations. On a certains campings qui nous font part de nombreux appels où on demande des informations, mais où on réserve énormément. On est presque sur des niveaux de réservation comme les autres années. Ça ne permet pas de rattraper le retard, mais là, on voit vraiment un démarrage. On voit que les gens sont vraiment contents de revenir. Alors, pour le moment, il n'y a pas énormément de monde, donc les gens en profitent et on est prêt pour recevoir maintenant les touristes qui vont vouloir passer des vacances.
Voilà, le tourisme qui repart en Nouvelle-Aquitaine avec Michel Durieux, directeur général du comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Le débat sur le racisme dans la police se propage dans le monde entier après la mort de George Floyd aux États-Unis. On va y revenir dans quelques minutes. En France, les manifestations contre les violences policières se multiplient avec notamment toutes les questions autour de la mort en 2016 d'Adama Traoré. Les juges ont décidé d'entendre le mois prochain deux témoins dans cette affaire, des témoins jusqu'alors ignorés. Le préfet de police de Paris interdit des rassemblements prévus cet après-midi sur l'esplanade du Champ de Mars pour dénoncer les violences policières. Et voilà que le parquet de Paris ouvre une enquête sur un groupe Facebook où des centaines de policiers postaient des messages racistes, antisémites, sexistes, homophobes. On va en parler dans un instant avec notre invité. Les policiers eux-mêmes subissent ce racisme de la part de certains de leurs collègues. Écoutez ce témoignage recueilli par Margot Steve, celui d'un policier. Il travaille en Île-de-France et il dénonce le racisme ambiant dans son service.
Quand on vous traite de bougnoule le premier jour de votre affectation, c'est qu'il y a un problème. Je me souviens d'un collègue, quand j'étais plus jeune, qui disait qu'il refusait de serrer la main aux policiers noirs et arabes, parce que pour eux, ils n'avaient rien à faire dans l'institution. Je bouillonne au fond de moi, mais le problème, c'est que j'aime mon métier, mais j'aime pas ce que certaines personnes en font. C'est inquiétant parce qu'on se dit, quelle sera la prochaine étape? Tous les jours, je le constate, certaines personnes, en fait, sont contrôlées de plus en plus, et moi-même, je suis contrôlé. Je me suis fait contrôler pendant le confinement, en faisant les plus bêtes des choses, en fait. Je descendais mes poubelles. On a attendu que je le passe le pas de ma porte pour me contrôler. Quand j'avais mon uniforme, j'ai plus sur mon front marqué policier, quoi. Je reste un maghrébin, et je suis contrôlé au même titre que eux.
Samir, il est policier, son témoignage donc que nous avons pu entendre ce matin dans la matinale de France Inter. Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône et chef de la France Insoumise, a tenu à réagir lors d'un point de presse ce matin à Marseille à la découverte de ces messages racistes publiés par des policiers et il met en cause directement les syndicats de police.
C'est un problème pour tous ceux qui aiment la République. C'est pas notre France, ça. Et je veux le dire bien tranquillement et bien fortement. Les syndicats de police se comporte d'une manière indigne. Nous avons connu la période où le secrétaire général du plus gros syndicat de police, Bernard Delplace, avait appelé les policiers à la retenue et à l'honneur du métier, parce que c'est un métier d'assurer la sécurité. Et que maintenant on découvre qu'il y a 8000 policiers qui se retrouvent sur des plateformes pour y proférer des injures racistes et sexistes, c'est un énorme problème. Ici, c'est la République française. Et s'ils ne sont pas capables de faire le travail de policiers en respectant les valeurs républicaines, en tournant le dos au racisme ou au sexisme, eh bien qu'ils s'en aillent. On n'en a pas besoin dans la police. On a besoin de policiers républicains. Et en effet, il y a des policiers républicains, heureusement pour nous tous. Il y en a plein à la police aussi. Mais ceux-là, ils souffrent.
Jean-Luc Mélenchon, ce matin à Marseille, en ligne avec nous au téléphone, Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat de policiers Unité SGP-FO. Bonjour monsieur Lefebvre.
Bonjour.
Comment réagissez-vous au propos de Jean-Luc Mélenchon à l'instant?
Je dirais que Jean-Luc Mélenchon est dans sa pièce de théâtre habituelle, à savoir au lieu d'ouvrir un débat constructif, au lieu de vouloir effectivement venir s'asseoir autour d'une table en tant que personnalité politique, il joue aujourd'hui, je dirais, sa partition, une partition pour moi que je n'accepte pas quand il dit que les syndicats de police sont indignes, quand il dit qu'aujourd'hui il faut que les policiers tournent le dos au racisme. Non, il ne faut pas tourner le dos au racisme, il faut lutter contre le racisme. Jean-Luc Mélenchon est dans sa situation, il est certainement en manque d'électorat, mais pour ce qui me concerne, enfin pour ce qui concerne l'organisation syndicale que j'ai l'honneur de mener, de diriger, on ne va pas en rester là parce que
Yves Lefebvre,
tels propos sont inacceptables.
Est-ce qu'on lutte efficacement contre le racisme au sein de la police? Un délégué du syndicat policier Vigie dénonce ce matin une attitude de complicité passive, je le cite, complicité passive de l'administration.
Et là aussi, on est dans une parodie. On lutte efficacement. Vous savez, le ministère de l'Intérieur a été, je dirais, le seul ministère de la fonction publique à être labellisé sur la diversité en 2018. Ça, c'est un élément important. Maintenant, est-ce qu'il faut lutter plus efficacement encore au quotidien contre le racisme? Oui, je l'affirme, oui. Est-ce qu'il y a eu, je dirais, des carences en la matière? Est-ce qu'il y a eu des carences dans la chaîne hiérarchique? Est-ce qu'il y a eu des carences dans les signalements? Oui, très certainement. Est-ce que des policiers ont droit d'être policiers? Des policiers ont droit d'être policiers en étant racistes? Je dis non, très clairement. Aujourd'hui, c'est dès l'entrée en école qu'il faut le rappeler, au quotidien qu'il faut le rappeler. Il y a certainement beaucoup de choses à faire, mais on ne pourra les faire. On ne pourra les faire que dans un climat apaisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'un côté que nous soyons confrontés à un racisme anti-flic, incarné ou demeurant ce matin par Jean-Luc Mélenchon, et en même temps que nous puissions être confrontés à des actes et des propos et des attitudes racistes dans les rangs de la police nationale. C'est un débat qui doit dépasser l'incantation politique. C'est un débat sur lequel moi je suis prêt à travailler et à m'associer.
Yves Lefebvre, est-ce qu'il y a un sentiment d'impunité au sein de la police avec ces propos qu'on découvre sur les réseaux sociaux, ces propos racistes? Est-ce que des policiers risquent gros?
Ah oui, ils risquent gros. Oui, et fort heureusement.
Qu'est-ce qu'ils risquent?
Entendons-nous bien, déjà, sur les un peu moins de 8000 personnes inscrites sur ce groupe Facebook, il n'y a pas 8000 propos racistes. Entendons-nous bien, hein. On est sur un microcosme qui est trop large, qui est trop important. Là-dessus, je suis, moi, tout à fait affirmatif en la matière. Ils risquent pour cela la révocation, purement et simplement, et légitimement. Pour ceux qui auraient réellement tenu des propos racistes, ceux qui ont des attitudes racistes, ils n'ont rien à faire dans la police républicaine. Sinon, on servirait le discours radicalisé de Jean-Luc Mélenchon et d'autres en la matière. La police est immensément et majoritairement républicaine et n'est pas raciste. Les cas qui existent doivent être sanctionnés de manière exemplaire.
Yves Lefebvre, je rappelle, secrétaire général du syndicat de policiers Unité SGP Force Ouvrière. Est-ce que vous avez été vous-même dans votre travail témoin de propos racistes tenus par des collègues? Et si c'est le cas, qu'avez-vous fait?
Non, et sans vouloir fuir et ne pas répondre et avoir la langue de bois, non, je n'ai jamais été confronté à ce tel propos. Jamais. Mais par contre, vous voyez, la situation qui se passe sur Rouen, qu'on connaît depuis le début de l'année, ceci étant, aussi, il y a eu un ralentissement lié au Covid-19 aussi sur les enquêtes administratives, sur les enquêtes judiciaires. Parce qu'avant l'affaire du groupe Facebook, nous avions l'affaire de Rouen. Là-dessus, j'ai pris mes responsabilités, je prendrai mes responsabilités jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y aura un conseil de discipline, on assumera nos responsabilités là-dedans. Je considère que de telles personnes qui auraient tenu de tels propos ou écrit de tels mots racistes n'ont rien à faire chez nous. En ce qui me concerne, je n'ai jamais été. Sinon, mon attitude, elle aurait été celle d'un policier républicain.
Celle d'un policier républicain qui a grandi
avec Bernard Delaplace, cité par Jean-Luc Mélenchon.
Yves Lefebvre, c'est bien évidemment. Est-ce que l'idéologie de l'extrême droite augmente dans la police?
Non, mais faisons en sorte que l'extrême droite ne puisse pas, c'est justement en luttant contre le fléau du racisme, qu'on fera en sorte que l'idéologie d'extrême droite, ou de tous les extrêmes au demeurant, ne puisse pas s'implanter dans la police nationale. La police doit être républicaine, la police n'en a que faire, je dirais, de l'opinion politique. La police n'en a qu'une couleur, la couleur bleue.
Merci. Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat de policiers Unité SGP FO, était l'invité de France Inter aujourd'hui. Aux États-Unis, nouvelle journée de manifestation dans quelques heures, notamment à New York, Miami et Washington, 12 jours après la mort de George Floyd. Dans la capitale fédérale, Washington, les organisateurs espèrent voir défiler cet après-midi 1 million de personnes pour dénoncer le racisme et les violences policières. Dans les cortèges, on entend évidemment le slogan « Black Lives Matter », les vies noires comptent, mais aussi des appels à réduire le train de vie des services de police jugés trop équipés, pas assez entraînés, et ces derniers jours, lors des manifestations, à l'origine de nombreux incidents, une répression disproportionnée, brutale des manifestants. À Washington, Grégory Phillips.
Les États-Unis comptent aujourd'hui 800 000 policiers. Jamais ce chiffre n'a été aussi élevé pour une population de 328 millions d'habitants. Dans les manifestations de ces derniers jours, on entend le slogan « Defund the police, coupez-leur les vivres ». Il faut dire que les budgets sont astronomiques. 6 milliards de dollars par an pour la police de New York, 2 milliards pour celle de Los Angeles. Avec des services publics exsangues, une partie de la gauche américaine veut couper dans ses budgets pour allouer des fonds, par exemple, à des programmes sociaux. Se pose aussi le problème de la confiance envers les forces de l'ordre. Un Afro-Américain sur trois dit avoir une mauvaise image de sa police locale. À Minneapolis, un projet de réforme des services de police a été lancé après la mort de George Floyd. En Californie, le gouverneur démocrate Newsom exige désormais des policiers de son État qu'ils renoncent aux techniques d'étranglement pour interpeller un individu. Washington, Grégory Phillips, France 1.
Un succès majeur, c'est ainsi que la ministre des Armées, Florence Parly, qualifie la mort du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdal. Il a été tué par les forces françaises dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne. Valérie Crova, on en sait un peu plus ce matin sur le déroulement de cette opération militaire, ce coup porté au réseau terroriste par la France en guerre au Sahel.
Une opération qui porte un coup sévère à Acmi. C'est ainsi que l'état-major des armées qualifie la mort du leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Son porte-parole, le colonel Frédéric Barbry.
L'opération, elle a été réalisée conjointement avec un module composé d'hélicoptères, de troupes au sol, le tout appuyé par une composante aviation. Et donc, outre la neutralisation de l'émir Drukdal, on a pu neutraliser également Toufik Shaib, qui est un haut cadre d'ACMI, qui était chargé de la coordination et de la propagande.
Une opération qui a été menée grâce à des renseignements fournis par les États-Unis qui ont confirmé avoir apporté leur soutien.
Nos camarades et alliés américains ont communiqué et je leur laisse le soin de répondre sur les éléments de leur communication.
Au cours de l'opération, un autre djihadiste a été capturé.
Il y a un terroriste qui s'est rendu. Pour l'instant, on ne communique pas sur son identité. Il sera ou il est rendu à la justice. Et puis ce sera intéressant en termes d'exploitation, et notamment d'exploitation du renseignement. Il devrait logiquement et normalement être remis à la justice malienne.
Un succès donc, alors que la force Barkhane, forte de 5000 hommes, intensifie ses opérations depuis plusieurs mois dans la région des Trois Frontières et au-delà, comme le montre celle qui a été menée mercredi près de la frontière algérienne.
Valérie Crova sur la mort du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Nous sommes le 6 juin, avec comme chaque année les commémorations du débarquement, dans la Manche et le Calvados, un étrange 6 juin dans le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Conséquence de la situation sanitaire, il n'a rouvert ses portes que mardi dernier, pas plus de 150 visiteurs en même temps. Et puis les Américains sont totalement absents cette année en raison de l'épidémie de Covid-19. Reportage de Nolwenn Lejeune.
C'est un lieu qui incite déjà au recueillement, mais un calme supplémentaire règne ici entre les 9386 croix blanches.
Oh, ils attendent bien les oiseaux aujourd'hui.
Scott Desjardins, superintendant du cimetière, a dû mettre en place tout un sens de circulation. Ici, les visiteurs ne se croisent pas.
Bien plus d'agents de sécurité et des guides dans le cimetière.
Ils ne peuvent pas non plus s'approcher des croix, sauf cas exceptionnel.
Aujourd'hui, on a eu une personne qui a placé 31 roses à des tombes. Ils nous avaient prévu, ça fait 3 semaines. On a pu l'accueillir. Ça se fait, mais c'est cas par cas.
Les visiteurs doivent aussi s'inscrire pour venir. En moyenne, ils sont 260 par jour, poursuit Scott Desjardins. Quand l'an dernier, le cimetière en a accueilli jusqu'à 11 000 sur cette période, les rares visiteurs ont donc du coup le sentiment de vivre un moment très particulier.
C'est très appréciable, on est entré, on était tout seul sur tout le site et c'est apaisant.
Mais la veille d'un 6 juin, c'est vrai que c'est bizarre de voir 20 personnes au travers de ces tombes alors que d'habitude c'est quand même rempli. Ça maintient l'émotion par rapport au devoir de mémoire. L'année prochaine, normalement, ça devrait reprendre le cours des choses, enfin on l'espère en tout cas.
Comme l'espèrent aussi certainement les vétérans américains et les familles des GIs qui reposent ici et qui pour certains n'auront pas pu pour la première fois venir se recueillir.
L'anniversaire du débarquement le 6 juin, reportage de Nolwenn Lejeune dans le cimetière de Colville-sur-Mer. Sur France Inter, ce soir, 18h-20h, Claire Servageant, le paléo-anthropologue Pascal Pic sera l'invité d'Inter avec Claire à partir de 18h15. Et puis 19h20, au téléphone sonne, retour sur le lancement réussi de la capsule SpaceX. Quelles seront les conséquences de ce premier voyage privé sur la nouvelle conquête de l'espace? Vos questions dès 17h01-45-24. 4-7000 le 18-20 sur France Inter avec Claire Servageant. Les sports, le football est un argument de moins pour Jean-Michel Aulas dans sa lutte pour la reprise du championnat de Ligue 1 de foot. Le dirigeant lyonnais vient d'être désavoué par Alexander Seferin, le président de l'UEFA, sur la date butoir de la fin des championnats en Europe, douchant encore un peu plus les espoirs de Jean-Michel Aulas de reprendre la saison. Cédric Guillou.
C'était depuis l'annonce de l'arrêt de la Ligue 1 l'un des arguments choc de Jean-Michel Aulas. Finir la saison actuelle au-delà du 3 août. Dans ses nombreux courriers adressés aux différentes instances et parlementaires, le président lyonnais clamait haut et fort que l'UEFA ne s'opposerait pas à une fin de championnat plus tardive. C'est faux, lui rétorque la Confédération européenne. Dans un mail que s'est procuré le quotidien L'Équipe, Alexander Seferin, le président de l'UEFA, rappelle aux dirigeants lyonnais qu'il sera impossible de jouer des matchs de championnat au-delà du 3 août. Cette date limite a été communiquée aux 55 associations membres de l'UEFA et validée, écrit Seferin. Nous ne pouvons donc pas la modifier à ce stade. Le président de l'UEFA reste ferme et n'entend pas faire de cas particulier pour la France. Le combat de Jean-Michel Aulas se complique donc encore un peu plus. Cette mise au point de l'UEFA ne plaide pas en sa faveur, alors que le Conseil d'État doit rendre son jugement lundi ou mardi, après le recours déposé par l'Olympique lyonnais contre l'arrêt de la saison de Ligue 1.
Le football et Cédric Guillou, c'est la fin de ce journal.